Kafka sur le rivage.
Murakami Haruki. Umibe no Kafka.
De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie.
Dai Sanwa.
Moi, ce que je préfère, c'est être dehors sous le ciel et parler avec les chats.
Le monde est un endroit très violent, vous savez, monsieur Nakata.
Ce n'est pas simple de devenir quelqu'un d'autre. Mais changer de nom, rien de plus facile.
Personne ne peut échapper à la violence.
Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur.
Même les rencontres de hasard
sont dues à des liens noués dans des vies antérieures.
Troisième épisode.
Réveille-toi, on est arrivé. Ah, c'était long. J'ai les reins en compote. Mal à la nuque aussi. Jamais plus je prendrai un quart de nuit. La prochaine fois, je prendrai l'avion, même si c'est plus cher. Je m'en moque.
Comment tu t'appelles ?
Moi ?
Oui, toi.
Sakura. Et toi ?
Kafka Tamura.
Kafka Tamura. Drôle de nom. Enfin, c'est facile à retenir.
Ce n'est pas simple de devenir quelqu'un d'autre. Mais changer de nom, rien de plus facile.
Tiens, mon numéro de portable. Si t'as envie de voir quelqu'un, appelle-moi. N'hésite pas. Comment on dit déjà ? Même les rencontres de hasard
sont dues à des liens noués dans des vies antérieures.
C'est ça. Mais ça veut dire quoi au juste ?
Que tout est déterminé par le karma. Même pour des choses insignifiantes, le hasard n'existe pas.
Tu es à Takamatsu jusqu'à quand ?
Je sais pas encore.
Ça dépendra des circonstances.
Ça dépendra des circonstances.
Bon, alors au revoir, Kafka Tamura.
Au revoir, Sakura.
Et si c'était ta sœur ?
Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur.
Sakura, c'est pas le nom de ma sœur. Cela dit, ce n'est pas compliqué de changer de nom. Surtout quand vous ne voulez pas qu'on vous retrouve.
Rapport du Military Intelligence Service établi le 12 mai 1946. Intitulé Rice Bowl Hill Incident 1944. Report numéro de dossier PTYX-722-896-745-42216-WWN. L'interrogatoire de Shigenori Tsukayama, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université impériale de Tokyo, s'est déroulé à Yotsuya, au sein du quartier général du haut commandement interallié, et a duré 3 heures.
À la mi-novembre 1944, nous avons mené une série d'entretiens avec ses enfants, sur ordre de l'armée. Une fois sur place, on nous a prévenu que l'enquête était classée secret défense et qu'il nous était par conséquent interdit de divulguer quoi que ce soit à l'extérieur. On nous a ensuite expliqué ce qui s'était passé au début du mois. 16 enfants avaient perdu connaissance dans la montagne, 15 avaient repris conscience spontanément, mais avaient perdu tout souvenir de leur évanouissement. Seul un garçon qui souffrait d'amnésie totale était toujours hospitalisé à l'hôpital de l'armée de terre, à Tokyo.
Avez-vous pu voir ces garçons ?
Oui. Ses fonctions physiques n'étaient absolument pas atteintes. Il était alimenté par perfusion, urinait régulièrement. Le soir, une fois qu'on avait éteint la lumière de la chambre, il fermait les yeux et s'endormait. Et le lendemain matin, il soulevait de nouveau les paupières. Il était inconscient, certes, Mais à part cela, son métabolisme fonctionnait à merveille. Il ne rêvait pas. Quand quelqu'un rêve, les mouvements de ses globes oculaires ou l'expression de son visage le signalent toujours. La conscience réagit aux expériences oniriques. Le rythme cardiaque s'accélère ou diminue. Mais on n'observait aucun de ces signes chez le petit Nakata.
Cela peut sembler bizarre, pourtant, on avait l'impression que le véritable Nakata était parti en voyage, ne laissant que son corps, telle une enveloppe provisoirement vide. Comme s'il avait réduit ses activités vitales au minimum pendant que sa personne elle-même était partie ailleurs pour vaquer à d'autres occupations. Littéralement, comme si son esprit avait quitté son corps. Connaissez-vous cette expression ? L'âme se sépare momentanément du corps, parcourt 1000 lieues, ce qui signifie qu'elle se rend dans un endroit lointain où elle accomplit une importante mission avant de réintégrer le corps. Bien entendu, rien de tout cela ne peut être prouvé scientifiquement. Je suis même un peu gêné d'évoquer ce genre de phénomène, ne serait-ce que sous forme d'hypothèse. Le problème concret auquel nous devions faire face était bien sûr comment sortir ce garçon du coma, comment le ranimer. Nous avons tout tenté pour le faire revenir de ce côté-ci, dans le monde conscient, sans le moindre résultat. Soudain, au bout de 2 semaines, au moment où, ayant épuisé tous les moyens en notre possession, nous commencions à perdre confiance et à nous sentir épuisés, le garçon s'est réveillé d'un coup, sans crier gare. Pas à cause de quelque chose que nous aurions fait et qui se serait révélé efficace, non. L'enfant parut se réveiller simplement parce que l'heure était venue.
Est-ce que Nakata peut vous appeler Kawamura?
Ça me dérange pas. Mais la tête très haute.
Excusez-moi, Nakata ne comprend pas bien ce que vous dites. Je ne suis pas très intelligent, vous savez.
Toujours du macro.
Vous voulez dire que vous aimeriez manger du macro?
Pas du tout. Les pattes avant, attachées.
Voici la photo de Sésame, la chatte que Nakata recherche. Elle appartient au Koizumi qui habite le 3e bloc à Nogata. Cela fait un moment qu'elle a disparu. Alors, je vous pose à nouveau la question, monsieur Kawamura. Avez-vous, oui ou non, déjà vu cette chatte?
Quoi, moi? Si c'est du macro, il attache. Si il attache, cherchez-le.
Décidément, Nakata ne comprend rien à cette histoire de macro.
Excusez-moi, mais seriez-vous monsieur Nakata par hasard?
Tout à fait, c'est bien moi. Bonjour.
Bonjour.
Il faisait un peu nuageux ce matin, mais je ne crois pas qu'il va pleuvoir.
J'espère bien que non. Appelez-moi Mimi, comme dans la bohème. Il y a une chanson qui m'est dédiée, vous savez.
Ah !
C'est un opéra de Puccini. Mon maître adore l'opéra. Je vous aurais volontiers chanté l'air. Malheureusement, je chante un peu faux.
Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Mimi.
Tout le plaisir est pour moi, monsieur Nakata. Vous recherchez un chat, n'est-ce pas ? Une chatte du nom de Sésame, c'est bien ça ?
Tout à fait. Tout à fait.
Et Kawamura l'aurait vu dans les parages?
C'est ce qu'il m'a affirmé. Mais Nakata n'a rien compris à ce qu'il a dit ensuite.
Si vous permettez, monsieur Nakata, puis-je vous servir d'interprète? C'est plus facile de communiquer entre chats.
Oui. Si vous pouviez, cela aiderait beaucoup Nakata.
Maintenant, écoute-moi sans broncher, espèce de crétin à couilles molles.
Cette mamselle est très intelligente et très bien élevée.
Maintenant, dégage.
En plus, elle connaît les opéras.
J'ai réservé une chambre dans un business hotel de Takamatsu que m'avait conseillé la YMCA de Tokyo. Quand on vient de la part de la YMCA, on a une réduction les trois premières nuits. Après, on paie le prix normal. Évidemment, je pourrais dormir sur un banc dans la gare pour faire des économies. Il fait pas froid et j'ai un sac de couchage. Je pourrais même dormir dans un parc. Mais si je croisais des policiers en patrouille, ils me demanderaient aussitôt mes papiers. Et s'il y a une chose que je veux éviter, c'est bien celle-là. Voilà pourquoi j'ai réservé trois nuits d'hôtel pour commencer. Pour la suite, je verrai en temps voulu. Je décide de tuer le temps jusqu'au soir en me rendant dans une bibliothèque.
Depuis tout petit, tu passes ta vie dans les salles de lecture des bibliothèques.
Il n'y a pas beaucoup d'endroits où puisse aller un garçon qui n'a pas envie de rentrer chez lui.
Après l'école, tu allais toujours à la bibliothèque à vélo.
J'y passais même la plupart de mes jours de congé. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Quand j'ai eu fini de lire la littérature pour la jeunesse, je me suis attaqué à la section adulte.
Tu as lu jusqu'à la dernière page des livres auxquels tu ne comprenais rien.
La bibliothèque était ma seconde maison. Ou plutôt, le seul endroit où je me sentais vraiment chez moi. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue. Voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine.
Trouverai refuge dans une petite bibliothèque.
Il existe une bibliothèque privée dans la banlieue de Takamatsu. On y trouve des livres rares. Et la maison et le jardin en eux-mêmes valent le coup d'œil, paraît-il. J'ai vu des photos de cet endroit dans un magazine. C'est une vieille maison de style traditionnel, avec une salle de lecture très élégante, qui ressemble plutôt à une antichambre. On voyait des gens en train de lire, installés dans des canapés confortables. Quand j'avais vu ces photos, je m'étais senti étrangement attiré par ce lieu. Je m'étais dit que, si un jour j'en avais l'occasion, j'irais visiter cette bibliothèque. Elle s'appelle Bibliothèque Commémorative Komura.
Kawamura m'a dit avoir vu dans un terrain vague tout près d'ici une chatte exactement semblable à celle de votre photo. C'était il y a 3 ou 4 jours.
Personne n'a vu ces âmes depuis ?
D'après Kawamura, non.
Je vous suis très reconnaissant de votre aide.
Ce n'est rien, vraiment. Je suis ravie de cette occasion de m'entretenir avec un humain capable de raisonnement logique tel que vous. Cela me change un peu. Et donc, monsieur Nakata, voilà ce que le petit Kawamura voulait dire. Depuis que les chats errants du quartier ont élu domicile dans ce fameux terrain vague, un individu mauvais qui les capture a fait son apparition. Tout le monde pense que c'est lui qui a enlevé ses âmes. Il attire les chats avec quelque chose de bon à manger, puis les jette dans un grand sac. C'est affreux, vraiment. La pire chose qui puisse arriver à un chat, c'est d'être enfermé dans un sac.
Oui. Mais pourquoi cet homme capture-t-il les chats ?
Je l'ignore. On dit que les humains mangent les chats dans certaines parties du monde. Mais Dieu merci, ce n'est pas une coutume japonaise. Ensuite, ma foi, il reste les expériences scientifiques pour lesquelles on sacrifie de nombreux félins. Et puis, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut aussi tenir compte des pervers qui torturent les chats. Il les capture, puis leur coupe la queue avec des ciseaux, par exemple.
Ah ! À quoi cela leur sert-il ?
À rien, monsieur Nakata. À rien. Ils veulent simplement faire souffrir le chat, pour s'amuser. Il existe des gens à l'esprit assez tordu en ce monde, vous savez.
Vous voulez dire que ces âmes a pu être enlevée par une de ces personnes à l'esprit tordu?
Hélas, oui. Cette pensée m'est extrêmement désagréable. Mais on ne peut exclure cette possibilité. Personne n'a idée du nombre de chats qui sont blessés chaque jour ou qui meurent pour rien.
Vous êtes très intelligente, mademoiselle Mimi.
J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à ces âmes.
Nakata va surveiller ce terrain vague quelque temps, mademoiselle Mimi.
D'après le petit Kawamura, l'homme est très grand. Il porte un étrange chapeau, tout en hauteur, et des bottes de cuir montantes. Il marche vite, et il a une allure si particulière qu'on le remarque aussitôt. Quand les chats le voient arriver dans le terrain vague, ils prennent aussitôt la poudre d'escampette. Mais un nouveau venu, qui ne serait pas au courant? Je pense que cet homme est dangereux, vraiment dangereux. Plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. Le monde est un endroit très violent, vous savez, monsieur Nakata. Personne ne peut échapper à la violence. Ne l'oubliez pas. On n'est jamais trop prudent, qu'on soit un chat ou un humain.
Entendu. Je m'en souviendrai. Au revoir, mademoiselle Mimi. Décidément, il y a beaucoup de choses que Nakata ne comprend pas.
Le garçon, ce petit Nakata, s'est réveillé d'un coup, dites-vous. Ce jour-là, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel?
Rien qui vaille la peine d'être souligné. La journée s'est déroulée normalement. Vers 10 heures du matin, une infirmière lui a fait un prélèvement sanguin. Il a suffoqué. Un peu de sang recueilli dans la pipette s'est éparpillé sur ses draps, qui ont été changés immédiatement. C'est le seul incident qui s'est produit ce jour-là. Le garçon s'est réveillé environ 30 minutes plus tard. Il s'est redressé brusquement sur le lit, s'est étiré à regarder autour de lui. Sa conscience était revenue. Médicalement, il était en parfait état de santé. Très vite, cependant, on a pu constater qu'il était devenu totalement amnésique.
Deux pruniers soigneusement taillés encadrent l'imposant portail de la bibliothèque commémorative Komura. Une fois passé ce portail, on suit une allée de gravier sinueuse. Les massifs sont bien entretenus. Il n'y a pas une feuille par terre. Le jardin est planté de pins, de magnolias, de corettes, d'azalées aussi.
Cette bibliothèque-là ne ressemble à aucune de celles que tu connais. Mais tu es venu exprès jusqu'ici, il ne te reste qu'à franchir le seuil.
Bonjour. C'est la première fois que vous venez?
Oui, le jeune employé est petit.
Vous pouvez examiner librement les rayons?
Avec un visage très régulier.
Et si un ouvrage vous intéresse, apportez-le dans la salle de lecture pour le consulter.
Plutôt que beau garçon, on peut dire simplement qu'il est beau.
Les livres rares sont signalés par une vignette rouge. Il faut remplir un formulaire pour les consulter.
Il a les cheveux plutôt longs, et quand il penche la tête en avant, sa mèche lui tombe sur le front.
Et dans la salle de documentation, à droite, vous trouverez un index des ouvrages. Il y a aussi un ordinateur pour faire vos recherches. Vous pouvez l'utiliser librement.
La petite étiquette blanche en plastique accrochée sur sa poitrine indique qu'il s'appelle Oshima.
Aucun livre ne peut être emporté à l'extérieur. Les appareils photos sont interdits, photocopies aussi. Et si vous voulez boire ou manger, il y a un banc, dehors dans le jardin. Et nous fermons à 5 heures.
Il ne ressemble à aucun des bibliothécaires que tu as rencontrés jusqu'ici.
Vous êtes... lycéen.
Oui.
Cette bibliothèque est un peu différente de celle dont vous avez l'habitude. Nous avons surtout des livres spécialisés, principalement de la poésie ancienne. Naturellement, nous avons aussi une sélection d'ouvrages généraux. Vous faites une recherche sur la poésie japonaise classique ?
Non.
Je m'en doutais.
Mais ça vous dérange pas que je regarde les livres, monsieur Oshima ?
Bien sûr que non. C'est une bibliothèque. Tous les gens qui aiment lire sont les bienvenus.
C'est un bâtiment magnifique.
Si le bâtiment vous intéresse, vous devriez vous joindre à la visite guidée qui a lieu une fois par semaine le mardi à 2h. Justement, aujourd'hui c'est mardi. Vous ne le regretterez pas.
Merci. C'est vous qui faites la visite ?
Non. Moi, je suis un simple assistant. C'est mademoiselle Saeki, la responsable de la bibliothèque. Autrement dit, mon boss qui s'en occupe. Elle est liée à la famille Komura. Une femme merveilleuse. Elle vous plaira, j'en suis sûr.
Ce salon est exactement l'endroit que je cherchais depuis longtemps. Un endroit secret, tapis dans un creux du monde, exactement comme celui-là.
Mais jusqu'ici, ce lieu n'existait que dans le secret de ton imagination.
Mais jusqu'ici, ce lieu n'existait que dans le secret de mon imagination.
Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. Troisième épisode. Avec Igor Mandzinski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima, Alexia Monduit, Sakura. Et les voix d'Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Jerry Di Giacomo, René Farabet, Frédéric Antoine, Chantal Galiana, Mustapha Abourachid, Anne Basset, Valia Boulet, Michael Pinelli, Romain Cotard et Marie Mosser. Musique originale et piano, Denis Chouillet, clarinette, Fabrice Villard, percussion, Sylvain Lemaître, bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.